Chapitre 12e, Nature et grâce. C'était dimanche, le jour du Seigneur. Ce jour était le plus triste pour Olympia, captive. Elle était exclue du service de Dieu. Elle ne pouvait assister à la célébration des saints mystères. « Oh, ma noble maîtresse, dit Théone d'un ton compatissant, combien j'ai de peine de pouvoir jouir d'une grâce dont vous êtes privée. » Ne vous en affligez pas, répondit Olympia avec douceur. Je m'unis en esprit aux pénitents auxquels l'Église interdit l'entrée de la maison de Dieu jusqu'à ce qu'ils aient humblement accompli la pénitence qui leur a été imposée. Nous savons cependant, bonne maîtresse, que vous avez droit à une autre place, s'écria Théone. Je sais que ma place est celle où il convient à Dieu de me mettre, dit Olympia. Ah, vous devriez cependant venir avec nous toutes, nous sommes voilées, personne ne vous reconnaîtra, et quand même, personne ne vous trahirait. Oh, venez avec nous, venez consoler votre âme au saint sacrifice. Vous savez que ma maison est surveillée par des espions, que je suis menacé d'avoir, au lieu de votre père, un poste de prétorien pour garder ma porte, que j'ai librement accepté ma captivité sur parole, pour ne pas vous exposer tout avec moi à la brutalité des soldats. Il est donc tout à fait inutile de me faire une pareille proposition. Allez, Théone, je reste, et Dieu me consolera. Olympia demeura seule. Elle visita ses malades, s'occupa de leurs besoins et pria avec eux. Ensuite, elle se retira dans sa chambre et se mit à méditer pieusement sur la grâce d'être, pour l'amour de Dieu, dans une captivité qui laisse à l'âme toute sa liberté, tandis que la liberté extérieure ne fait souvent que charger l'âme de lourdes chaînes. Comme toutes les organisations nobles et délicates, elle avait un vif sentiment des beautés de la nature, mais aucun charme terrestre, de quel côté qu'il vînt, ne pouvait prendre sur elle aucun empire. Il s'écoulait des jours, des semaines et des mois, sans qu'elle mît le pied sur la terrasse qui, de son palais, dominait la mer et offrait une vue magnifique sur la Propontide. Du vivant de son père et de son époux, cette terrasse était un riant jardin, rempli de buissons fleuris, de plantes rares, de fontaines jaillissantes, avec des tentes gracieusement dressées et disposées de manière à offrir un doux abri contre les ardeurs du soleil et la brise de la mer. Tout cela avait disparu depuis longtemps. La terrasse n'avait plus que ce que l'art ne lui avait pas donné, la vue sur la mer, beauté inaltérable. Olympia alla sur cette terrasse, s'appuya contre la rampe et laissa ses beaux yeux s'égarer sur les vagues oscillantes. « Voilà l'image de la vie en Dieu, se dit-elle à elle-même. À la surface, agitation, trouble incessant. Au fond, calme mystérieux. Olympia, quelle merveille ! Fit une voix vive et animée. Une dame passa la porte qui ouvrait sur la terrasse. « Je suis ici depuis 3 minutes, continua-t-elle, et pendant tout ce temps-là, vous êtes resté à rien faire. Vous ne lisez pas, vous oubliez vos malades, vous ne cousez pas. Oh, miracle ! Vous voilà oisive comme la première venue. Voilà comment on attrape son monde, dit Olympia en riant. Mais dites-moi ce qui vous amène, chère Thaïs. Voyez comme je vous aime, s'écria Thaïs, jeune et belle dame, proche parente d'Olympia. J'ai manqué la messe aujourd'hui à cause de vous. Oh, ce n'est pas là une marque d'affection qui puisse me réjouir, fit Olympia. Ingrate, dit Thaïs d'un ton léger. Oui, je viens pour être la première à vous apporter une bonne nouvelle, car je suis convaincu que dans votre retraite, le grand événement de la chute de Trope ne vous est pas encore connu. Ah, c'est donc fait, fit Olympia en pensant au message de Doxia. Cela ne vous surprend pas, demanda Thaïs. Une position comme la sienne était trop incertaine pour que sa chute puisse surprendre beaucoup. Soit, mais elle vous réjouira au moins, car votre captivité cesse. Parce que personne n'a plus intérêt à vous séquestrer pour prendre vos revenus, votre fortune, et parce que tous vos parents et moi en particulier, votre compagne d'enfance, nous prierons l'empereur de vous rendre votre entière liberté. Il doit être bien changé, l'empereur, plein de courage, plein d'éloquence. Hier, les prétoriens ont presque bouleversé l'hebdomon. Ils agitaient leurs lances et criaient qu'on leur livrait Eutrope, qui s'était réfugié à Sainte-Sophie, et que le patriarche avait protégé. Mon mari a vu toute la scène. Il était au palais, il n'en pouvait croire ses yeux et ses oreilles, quand l'empereur déclara qu'il voulait parler à cette soldatesque en furie, et il l'a fait. Il leur a dit que la violation du droit d'asile, qui aurait un meurtre pour résultat, serait une fort mauvaise action. Ces paroles ont fait réfléchir les soldats, mais c'était trop peu pour les gagner pleinement. Alors l'empereur s'est mis à pleurer, il a versé tant de larmes et a parlé avec tant d'émotion que l'on n'aurait jamais cru qu'il pût sentir et s'exprimer ainsi, lui qui d'ordinaire paraît si indifférent. Cependant, je dois remarquer que le patriarche avait été auparavant auprès de lui et que le droit d'asile lui tient naturellement au cœur. C'est lui qui avait communiqué ce beau feu à l'empereur. Bref, les prétoriens se retirèrent calmés, au grand étonnement de tout le monde. L'empereur donna le titre d'Augusta à Eudoxia, cause principale de la disgrace, et tout l'hebdomon rayonna de bonheur et de joie. Cela durera-t-il? C'est une autre question. Mais une chose est certaine, Eudoxia prendra en main le pouvoir que Trope a possédé jusqu'à présent, et elle l'exercera. Elle l'a assez cherché, et elle a assez gémi de n'être que l'épouse d'Arcadius. Olympia écoutait tranquillement ce flux de paroles. « Qu'allez-vous faire à présent ?» demanda Thaïs. « Pas autre chose que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, moins la contrainte pénible, » répondit Olympia. « Vous êtes insupportable avec votre manie de vouloir être meilleure que nous toutes, » fit Thaïs. « N'avez-vous pas eu le temps de vous en fatiguer depuis 6 ans que vous êtes veuve ?»« Si c'est mon genre de vie et ma manière de voir que vous traitez de manie, cher Thaïs, je vous répondrai tout simplement non. Et je vous demanderai si après 8 ans de mariage vous en êtes lasse. » « Oh, c'est bien différent. J'ai un excellent mari, des enfants charmants, une grande fortune, une situation brillante. Je suis très heureuse et on ne se lasse jamais du bonheur. Au contraire, on voudrait le voir grandir et s'accroître de plus en plus. Mais vous, Olympia, vous vous rendez malheureuse quand vous pourriez être heureuse. Voilà pourquoi je pense que le triste caprice qui vous possède de vouloir rester dans le veuvage, et quel veuvage austère, aurait pu vous passer. » « Oh, si vous vouliez vous marier avec Elpidius, quelle joie pour nous tous, y compris l'empereur et l'impératrice. »« Cher Thaïs, on ne se marie pas pour faire plaisir aux autres, mais pour suivre sa vocation. Dieu m'a enlevé Nébridius, mon mari. M'engager de nouveau dans les liens du mariage n'est pas ma vocation. Vous le savez tous. Vous voyez qu'aucune persécution n'a pu changer ma résolution. Et maintenant que je vais sans doute rentrer en possession de ma liberté, irai-je en changer sans raison ?» « La raison est, fit Thaïs, que personne n'a la vocation d'assombrir sa belle existence et qu'il est bien permis d'y réfléchir. Mon Dieu, qu'il fait triste ici, pauvre créature. Autrefois, cette terrasse était un petit paradis. Vous souvenez-vous avec quel plaisir nous y avons joué ensemble, nous cachant derrière les buissons de myrte? Vous souvenez-vous, plus tard, de ces magnifiques soirées où Nébridius faisait illuminer la terrasse et de ce délicieux berceau de verdure sous lequel nous écoutions, tout à l'aise, la musique qu'il avait placée dans le salon. Et puis, quand nous en étions fatigués, nous descendions les marches qui conduisaient à la grotte. Nous montions dans une barque et nous faisions une promenade sur la mer, dont les flots reflétaient au loin, sous forme de longues traînées de feu, les vives clartés de la terrasse. Olympia, qu'est-ce que tout cela est devenu? Est-il convenable que la fille du comte Anisius Secondus habite une ruine? Quelle dévastation! Nous sommes assis sur le piédestal qui portait autrefois un vase de fleurs. Vous mettrez vos amis dans l'impossibilité de vous faire visite, car vous ne pouvez leur demander de s'asseoir sur un bloc de pierre. » Olympia répondit avec calme. « Vous m'avez surprise ici, cher Thaïs. Dans mon salon de réception, vous trouverez un siège commode. Ce n'est pas pour moi que je dis cela, c'est pour vous-même, » fit Thaïs avec humeur. « Vous vous placez en dehors du cercle dans lequel vous êtes né, pour lequel vous avez été élevé. » « Pour cela, non !» interrompit Olympia. « Ma très regrettable amie Théodosia ne m'a pas élevée pour un certain cercle particulier, mais avant tout pour Dieu, pour son service, pour son amour. »« Et c'est entendu, » répondit Thaïs. « Nous sommes chrétiennes. Ainsi nous servons et nous aimons Dieu, mais pas exclusivement. Cet esprit d'exclusivisme est précisément ce que nous ne voulons pas vous passer. Je ne veux pas parler de moi-même. » Mais voyez l'impératrice comme elle est pieuse, comme elle assiste dévotement aux offices et aux solennités de l'Église, comme elle est généreuse pour les pauvres, que d'argent elle répand pour les hôpitaux, pour la construction et l'entretien des églises. Que Dieu l'en récompense, dit Olympia. Malgré cela, elle aime l'éclat et le luxe, les entretiens joyeux, les beaux diamants, enfin tout ce qui plaît à toutes les femmes. Voulez-vous faire plus que l'impératrice? Je n'ai pas la pensée de rivaliser avec elle, cher Thaïs, répondit Olympia. Ah, j'ai un plan magnifique. Seulement, sans vous, il est inexécutable, fit Thaïs en soupirant. Et sa réalisation serait un bien pour des milliers de personnes, je dirais même pour tout l'Empire. « Parlez-vous sérieusement ? » demanda Olympia, étonné. « Très sérieusement, » fit Thaïs d'un ton profondément convaincu. « Écoutez-moi bien. Je suppose que vous épousiez Elpidius. Par cette alliance, l'empereur Arcadius devient votre cousin. Vous vivez dans son intimité, dans celle de l'impératrice, et vous ne pouvez manquer de prendre de l'influence sur tous deux. Votre mari serait préfet du prétoire, et comme il aurait besoin d'hommes capables au poste important, le mien serait nommé préfet de Constantinople. Grâce à cela, et grâce à vous, Olympia, j'entrerai moi-même dans le cercle intime de l'impératrice, et avec le temps, notre société lui paraîtrait plus agréable que celle de Marsa et de ses amis. L'influence que l'orgueilleuse Marsa possède en ce moment sur sa pupille s'effacerait peu à peu pour faire place à la nôtre, ce qui serait un grand bien pour la cour et pour l'Empire, car Marsa est cupide et ambitieuse. Elle a des favoris que précédemment déjà, en dépit d'Eutrope, elle cherchait à pousser par le moyen de Doxia, et qui doivent lui témoigner leur reconnaissance par des attentions, des flatteries et de riches présents. Ce serait un immense bienfait qu'un changement dans l'entourage intime de l'impératrice. Marsa est détestée, de la cour et de la ville. On bénirait celle qui la supplanterait, et je crois, Olympia, que cela ne nous serait pas très difficile à nous deux. Dans l'état actuel des choses, Eudoxia gouvernera, car le patriarche ne pourra pas toujours faire merveille auprès de l'empereur. Alors il va sans dire qu'elle nous consulterait. Et de cette manière, le gouvernement de l'Empire irait où il doit aller, aux mains de votre époux et du mien. N'est-ce pas une idée magnifique? Ne pourriez-vous, pour la seconder, abandonner vos rêveries qui ne profitent qu'à vos pauvres infirmes? Et à mon âme, que je dois sauver pour le royaume de Dieu? Répondit Olympia. Quant au gouvernement des royaumes de ce monde, je n'ai pas à m'en occuper. Dieu ne m'en a point chargé. Il ne m'en demandera aucun compte. Je savais bien que votre vue bornée ne s'élèverait pas à la hauteur de mon plan, dit Thaïs d'un air méprisant. Cela me fait plaisir, répondit Olympia d'un ton affectueux, car je n'ai réellement aucun talent, aucune pénétration pour les difficultés du gouvernement de l'État. Mais, cher Thaïs, votre plan ressemble fort à une intrigue. Vous voulez renverser les uns, élever les autres. Prenez garde, c'est un terrain glissant, dangereux. Sans votre concours, je ne puis vraiment le mettre à exécution. Au moins, ne puis-je rien faire de bien quant à présent. Et pourtant, le moment serait si favorable, fit Thaïs en soupirant. Eutrope n'est-il pas un avertissement de ne pas gravir certaines hauteurs? Demanda Olympia. Eutrope, un homme né dans l'esclavage, un misérable affranchi, serait un avertissement pour moi? S'écria Thaïs d'une voix mêlée d'indignation et de surprise. « Croyez-vous être en sûreté à cause de votre noblesse ?» reprit Olympia. « La tentation d'abuser du pouvoir ne vient pas seulement aux esclaves. Elle peut venir à tout cœur humain. Je le sais. Je n'écoute vraiment pas sans profit les sermons de Bouche d'Or. Aussi m'est-il doublement sensible d'être mis en parallèle avec un Eutrope, et cela par une proche parente, une amie d'enfance. » Thaïs parlait en femme qui se sent froissée. « Je vous veux tant de bien, » ajouta-t-elle. « Je désire si sincèrement vous voir heureuse à côté de l'excellent Elpidius, que vous ne devriez pas me blesser au cœur. » Olympia s'épuisa en protestation et l'assura de toutes ses forces qu'elle n'avait pas eu la moindre intention de l'offenser. « Eh bien, » fit Thaïs, « votre plus sûr moyen de me le prouver, c'est d'épouser Elpidius. À cette condition, je vous passe toutes vos extravagances. »« Que diriez-vous, » demanda Olympia, si je vous proposais de vous séparer de votre mari pour en prendre un autre? Je dirais que vous avez perdu l'esprit, s'écria Thaïs. Eh bien, dit Olympia avec calme, de même que vous êtes lié pour la vie à un époux, de même je me suis donné à Dieu. J'espère que cette simple déclaration vous donnera la clé de mon genre de vie et vous convaincra que toute proposition de mariage doit s'attendre à un refus de ma part. Oh ciel, je le pressentais, fit Thaïs en pâlissant. « Pauvre ami, qu'avez-vous fait ? Je me suis jeté dans les bras de Dieu. Celui que Dieu mène marche en sûreté, » dit Olympia. « Pauvre infortuné !» s'écria Thaïs avec l'accent d'une profonde compassion. « Vous vous êtes, pour ainsi dire, enterrée toute vivante, et vous avez à peine 24 ans, et vous pourriez être la plus heureuse des femmes heureuses, mais c'est affreux !» Ainsi continuèrent à s'entretenir longtemps encore ces deux jeunes femmes, qui, alors qu'elles se livraient à leurs ébats enfantins sur la terrasse, paraissaient devoir courir les mêmes destinées, et qui aujourd'hui se trouvaient aussi différentes l'une de l'autre que le ciel est éloigné de la terre.